France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. À partir de vendredi prochain, les Russes sont priés de se rendre aux urnes pour élire leur président. L'exercice prendra 3 jours jusqu'au dimanche suivant. Le territoire est vaste et la surveillance du scrutin approximative. Au pouvoir sous un titre ou un autre depuis 25 ans, à l'abri d'une constitution modifiée pour lui permettre d'y rester, jusqu'en 2036, s'il le peut, Vladimir Poutine requiert un 5e mandat. Sur le papier, il s'agit bien d'une élection présidentielle. Parlons plutôt d'un simulacre, puisque le président sortant a éliminé ses rares opposants. Pourquoi s'encombre-t-il d'une telle formalité alors que le régime autocratique qu'il incarne n'a cessé de se durcir, que les outils de contrôle et de répression amplifiés à l'ère numérique n'ont jamais été aussi puissants? 2 ans après l'invasion de l'Ukraine, sans que son armée réussisse à atteindre les objectifs assignés, le maître du Kremlin entend mesurer l'adhésion du peuple au récit qu'il ne cesse de réécrire à la gloire de la Russie éternelle. Le pays tout entier doit vibrer aux accents de la victoire annoncée, oublier ses fils morts dans les tranchées ukrainiennes. La guerre est désormais existentielle, puisqu'il s'agit de vaincre l'Occident décadent ligué pour le détruire. Comme dans tout système autoritaire, le taux de participation aura en fait valeur de test. Mais que sait-on aujourd'hui de l'état de la société russe, de l'imprégnation des mentalités sous le feu roulant de la propagande nationaliste? Les réactions à la mort d'Alexeï Navalny ont ému et surpris. Les électeurs iront-ils jusqu'à écrire son nom sur les bulletins de vote comme le demande sa veuve? Le régime s'efforce de relancer une natalité en berne, de soutenir les populations les plus défavorisées. Comment l'économie résiste-t-elle aux sanctions internationales tout en consacrant l'essentiel des ressources au complexe militaro-industriel? La Russie de Poutine tourne le dos à l'Europe. Quelle est désormais la vision du monde qu'il offre ou qu'il impose à ses concitoyens? C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Tatiana Kastueva-Jean. Vous dirigez le Centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales. Céline Maranger, vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Au téléphone, ou plutôt sur Skype avec nous depuis Lille, Andrei Kozovoy. Vous enseignez l'histoire russe et soviétique à l'Université de Lille et nous sommes ravis d'accueillir Sergueï Gouriev qui dirige la formation et la recherche à Sciences Po et qui est économiste. Tatiana, cette élection présidentielle intervient donc tous les 5 ans. Pourquoi a-t-il souci de la forme dans cette Russie poutinienne?
Tous les 6 ans, cela a été changé sous Dimitri Medvedev. Et donc, en effet, vous avez mentionné, à la suite de la réforme constitutionnelle de 2020, Vladimir Poutine s'est donné la possibilité de se représenter pour 2 autres mandats de 6 ans. Donc, il peut aller jusqu'à 2036, l'époque où il aura, sauf erreur de ma part, 82 ans.
Oui, mais
et
enfin bon.
Pourquoi?
On voit aux États-Unis.
C'est l'argument actuellement, en effet. En fait, pourquoi ce souci d'organiser quand même les élections, etc. Je pense que le mot clé, c'est le mot légitimation pour la suite. Et cette légitimation, elle se situe sur 2 plans. D'une part, sur le plan formel, de légalisme formel, et la Russie de Vladimir Poutine a toujours essayé de respecter les formes. Il y a toujours une loi au nom duquel les opposants sont poursuivis ou telle ou telle chose est faite. Donc, il faut que ces élections aient lieu. Mais cette légitimation, il est aussi sur le plan très pratique. C'est une sorte de test à grande échelle des loyautés. L'organisation des élections, c'est des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes qui participent à tous les niveaux, des bureaucrates, des gouverneurs, des simples membres des bureaux de vote, etc. Toute cette machine est censée produire un certain résultat qui confirme la légitimité, qui doit confirmer la légitimité de Vladimir Poutine aux yeux de la population, mais aussi aux yeux de ses propres élites. Si tout se passe bien, on voit bien que c'est une sorte de son pouvoir, une sorte de forteresse où il n'y a pas de faille, il n'y a pas de brèche dans laquelle on peut s'engouffrer, etc. Donc tout cela peut encore durer. Voilà donc la mécanique, en fait, de ces élections.
Des élections qui auront lieu aussi dans les territoires annexés de l'Est de l'Ukraine.
Absolument, et ça c'est la première fois que ce sera le cas, et c'est assez unique je trouve dans l'histoire, parce que la Russie, qui a annexé ces territoires, ne maîtrise pas la totalité en fait du sol. C'est à Luhansk que c'est maîtrisé quasi dans sa totalité, mais pas du tout à Zaporijjia par exemple. Et on se pose beaucoup de questions. D'où viennent les chiffres de personnes qui doivent voter dans ces régions? De quelle manière sera organisé le vote? Et d'ailleurs, il ne faudrait pas parler des élections encore moins dans ces territoires-là, parce que c'est impossible d'avoir une compétition libre, une agitation par toutes les forces politiques. Évidemment, et c'est déjà en fait depuis plusieurs mois, et dans le Donbass et en Crimée depuis plusieurs années, qu'il y a une russification forcée de ces régions-là, et les gens ne peuvent plus s'exprimer différemment qu'en allant dans le sens de Vladimir Poutine.
Mais à l'échelle du territoire russe, dans les frontières légitimes, disons, est-ce qu'il y a des candidats qui vont faire semblant de s'opposer? On sait que le candidat ultranationaliste qui trouvait que Poutine est trop mou, lui, il est en prison. Et celui qui avait quand même recueilli le nombre de signatures apparemment suffisant pour se présenter et qui dénonçait la guerre en Ukraine, lui, on lui a interdit de se présenter. Donc, en fait, Poutine se...
Les candidats, c'est simple. Il y en a quatre, y compris Vladimir Poutine, qui d'ailleurs se présente comme un candidat indépendant et pas du tout comme un candidat de la Russie unie. À part lui, il y a trois autres candidats qui représentent les partis parlementaires, donc qui sont représentés au Parlement et qui évidemment ne font aucun poids face à Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs amusant que Leonid Sloutsky, le chef du parti LDPR, c'est parti anciennement dirigé par Vladimir Zelensky, explique qu'il n'est pas là pour gagner les élections. Il est juste ravi d'y participer et sans compter évidemment de remporter la victoire. Il continue d'ailleurs à utiliser sur ses dans ses slogans, dans les images de sa campagne, celle de du feu Vladimir Zelensky, parce que lui-même il est très peu connu à l'échelle du pays. Ce sont les candidats qui donc quand on regarde le centre de sondage Levada, qui ont un taux de popularité entre 1 et 3% maximum.
Voilà, donc on peut
et
déjà
les candidats
dire...
anti-guerre ne sont pas admis à participer. Au fond, ces élections se déroulent selon le scénario le plus conservateur et le plus confortable pour Vladimir Poutine.
Sergueï Gouriev, vous avez quitté Moscou en 2013. Vous y aviez fondé une école d'économie réputée. Vous étiez proche d'Alexei Navalny. Sa veuve, Yulia, demande à tous ceux, et ça avait surpris et beaucoup bouleversé d'ailleurs de voir tous ces gens à Moscou en particulier qui avaient eu le courage de se rendre aux funérailles le 1er mars. Est-ce que vous pensez qu'il y aura effectivement le nom de Navalny sur un certain nombre de bulletins de vote?
Oh, bien sûr. Je crois que pour beaucoup de gens, c'est une opportunité de s'exprimer pendant ce jour d'élection, entre guillemets. Et bien sûr, plusieurs gens, beaucoup de gens, vont écrire Navalny sur les bulletins de vote, mais combien, c'est pas possible de savoir, parce que, comme vous avez déjà dit, par exemple, il y a des répressions contre les observations électorales quand même. C'est la première fois comme le patron des plus grandes associations d'observation électorale, Golos, le voit, est en prison depuis mars dernier. Donc, c'est vraiment, comment on compte, comment on voit les bulletins, c'est pas évident du tout. Mais on a vu, comme vous avez déjà évoqué, on a vu centaines de mille personnes pour signer, pour donner les signatures, pour soutenir les nominations de cette candidate anti-guerre, Boris Nadeždin. On a vu combien de gens ont participé à cérémonie d'enterrement d'Alexei Navalny. On a vu beaucoup de gens qui sont contre la guerre, mais c'est pas C'est pas très facile de protester, de manifester aujourd'hui en Russie, parce que même les candidats anti-guerre, si on est direct en Russie, si on a une conversation comme les nôtres aujourd'hui en Russie, tout le monde va à la prison pour 10 ans. Donc, c'est pas facile, mais je suis sûr qu'on va voir plusieurs gens participant à cette idée de midi contre Poutine, qui est l'idée proposée par député municipal Saint-Pétербург Максим Резник и soutenu par tous les opposants russes, même Алексей Навальный lui-même. Et donc l'idée c'est voter dimanche à midi, donc montrer que nous sommes nombreux. Et même ici à Paris, on va avoir les manifs comme ça, donc les gens qui votent à l'ambassade russe à Paris vont voter à midi. Et après, on va avoir manif juste à côté de l'ambassade, à place de Colombie, pour montrer que nous sommes très nombreux. La Russie, ce n'est pas que la Russie de Vladimir Poutine, c'est la Russie d'Alexei Navalny, Russie pro-européenne, Russie anti-guerre.
Céline Maranger, la Russie de Vladimir Poutine, donc la Russie contemporaine, celle que Poutine, il faut le rappeler, a émergé à Saint-Pétersbourg en
dans les années 99.
90. Il est devenu Premier ministre en 99.
Mais il avait auparavant, pendant un an, dirigé le FSB. Et je pense qu'il avait été nommé d'ailleurs par Kyrienko, qui est maintenant vice-chef de son administration présidentielle. Donc ça fait longtemps, en fait, qu'il gravite au plus haut niveau des cercles de pouvoir.
Un pouvoir qu'il incarne désormais, enfin plus que jamais, et qui sait... Ready qui s'est durci et qui accompagne en fait une militarisation véritablement de la société russe.
Tout à fait. Je crois que si on essaye de dresser un bilan des 6 années qui viennent de s'écouler, bien sûr l'événement majeur c'est la guerre.
6 années à cause de
6 années de sa dernière mandature. Enfin voilà. L'événement majeur, bien sûr, c'est la guerre. Mais ce qu'on observe sur le plan de la politique intérieure, c'est vraiment un raidissement politique très net. La guerre, bien sûr, a renforcé l'autoritarisme et l'autocratie en Russie, même si, en fait, le tournant, il est antérieur. Je pense que, d'abord, on peut le faire remonter... à moins une quinzaine d'années. Il y a eu une première inflexion importante en 2012, une deuxième inflexion très significative en 2020 au moment de la réforme constitutionnelle qui a vraiment complètement transformé, vidé de sa substance en fait la constitution de 1993 et porté atteinte à la séparation des pouvoirs et permis à Vladimir Poutine de se représenter pour 2 mandats consécutifs, ce que normalement il n'aurait pas pu faire. Je soulignerai aussi que cette réforme constitutionnelle, elle est intervenue le même été que l'empoisonnement de Navalny.
Le premier empoisonnement.
Et que les élections truquées en Biélorussie, qui avaient suscité un mouvement d'ampleur dans ce pays. Alors, maintenant, si on essaye de regarder ce qui s'est passé depuis 2 ans,
Depuis la guerre, des
mesures répressives ont été prises de plus en plus, féroces, pour à la fois délégitimer l'opposition politique non cooptée, donc pas l'opposition institutionnelle qui est en fait une opposition de façade, hein, tous ces partis qui siègent au Parlement n'ont aucune, enfin ils expriment aucune opposition en réalité. Donc toute l'opposition politique non cooptée, elle n'a plus droit de citer en Russie aujourd'hui. Et la deuxième chose, ils ont pris des mesures aussi pour atomiser complètement la société civile.
Et là, atomiser, c'est-à-dire
C'est-à-dire que toutes les associations de la société civile qui parvenaient encore à exister. Je pense par exemple à OVD Info, à Mémorial, toutes ces organisations aujourd'hui n'ont plus le droit, en fait, la plupart de leurs représentants sont qualifiés d'agents de l'étranger. Certaines organisations sont considérées comme des organisations dites indésirables et des tribunaux ont prononcé leur liquidation. Vous remarquerez quand même que la terminologie n'a pas été choisie au hasard. C'est une terminologie qui, de mon point de vue, fait une référence explicite à la période stalinienne. Et donc tout ça sert aussi à discréditer cette opposition en interne. Et par ailleurs, et ça je pense que c'est très important pour expliquer ce tournant répressif, c'est que immédiatement après l'invasion de l'Ukraine, des lois ont été adoptées pour empêcher toute critique de la guerre et jusqu'à l'utilisation même du mot guerre. Par exemple, la loi sur la discréditation des forces armées, elle a permis d'emprisonner les principales figures de l'opposition. Ilya Yashin, il a été condamné à 8 ans de prison pour avoir parlé des exactions à Boutcha. Vladimir Karamurza a été condamné à 25 ans de prison pour haute trahison parce qu'il avait ouvertement critiqué l'invasion. Et bien sûr, l'opposant le plus connu, Navalny, qui avait fait toute sa carrière politique sur la question de la haute corruption et la dénonciation de la haute corruption. Lui, il a d'abord été empoisonné par une unité du GRU, hein, ce qu'il a réussi à démontrer. Et ensuite, il a été tué. Après avoir subi
Et il a été tué incarcéré avant ces élections présidentielles. André Kozhevoy, précisément sur ces outils de pénétration et de contrôle de la société russe, vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, mais le 26 février dernier, différents médias occidentaux ont révélé ce qu'on appelle, selon la terminologie consacrée maintenant, les Kremlin leaks, donc les fuites du Kremlin. Qu'est-ce que cela nous apprend sur ces outils comme le FSB, mais aussi le GRU, qui s'occupe du renseignement militaire, le SVR, qui s'occupait surtout de l'espionnage à l'étranger. Qu'est-ce qu'on apprend sur la manière dont ces outils fonctionnent aujourd'hui grâce à ces fuites absolument sidérantes?
Alors, je crois qu'il faut distinguer entre les services de renseignement, qui ont leur propre budget, et des activités qui peuvent recouper celles de la propagande, bien naturellement, et si j'ai le temps, j'en reparlerai un petit peu. Et puis, l'immense appareil de propagande qui nous a été révélé dans un détail sans précédent par ces révélations, par ces leaks, ces fuites, donc qui effectivement ont été publiées par un média estonien à la fin février dernier, et qui nous montre, si vous voulez, en substance, la propagande au ras du sol, le budget poste par poste pratiquement, pour ces différentes catégories d'activités de propagande et de désinformation du Kremlin. On voit les gens qui sont responsables concrètement de certaines activités, de certaines tâches, donc avec un budget global qui dépasse 1 milliard de dollars d'euros pour l'année 2023, ce qui est quand même considérable, avec 3 domaines principaux pour cette propagande. Nous avons tout d'abord tout ce qui concerne la réélection de Poutine, dont on a parlé en début d'émission. Donc, comment faire en sorte que cette élection se passe pour le mieux, qu'elle, effectivement, elle serve de test à la popularité de Vladimir Poutine et qu'on arrive à des scores qui sont quand même supérieurs à 80%, voire proche de 90%. Ensuite, deuxième poste, le plus important, c'est ce qu'on appelle la guerre informationnelle, tout ce qui est propagande de valeurs du Kremlin, l'héroïsation des combattants de cette guerre en Ukraine. Et enfin, la propagande destinée à ce qu'on appelle les nouveaux territoires, donc les territoires conquis en Ukraine. Et la Seigneur Pars, la part du lion, revient à la guerre d'information, à la guerre de propagande destinée à la diffusion des valeurs considérées comme intrinsèquement russes aujourd'hui, par opposition à ceux de l'Occident décadent, si vous voulez.
Et donc, cette guerre d'information, elle vise c'est paradoxal, mais elles visent d'abord la population russe, et bien sûr, nos pays, on sait que la France en particulier, en subit les ravages. Mais Reporters sans frontières vient d'annoncer, André Kozovoy, Svoboda, ça veut dire liberté en russe, et c'est un bouquet satellitaire lancé par Eutelsat, et qui va diffuser, ou qui diffuse déjà depuis quelques jours en Russie, donc plusieurs chaînes et radios en russe, notamment Echo, la radio Sakharov, donc des radios par définition d'opposition. Est-ce que ces méthodes peuvent être efficaces selon vous?
Alors, tout ça, ça me rappelle, bien sûr, l'époque soviétique que j'ai étudiée depuis ma thèse, en fait. J'ai travaillé sur la propagande anti-américaine à l'époque soviétique tardive, dans les années 70-80, et notamment tout ce qui concernait les États-Unis, la diabolisation de l'oncle Sam. Et ça me rappelle énormément le contexte de cette époque, les années 70-80, la guerre froide, n'est-ce pas ? Avec l'existence d'une véritable guerre d'information transfrontalière. À l'époque, bien sûr, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui, mais il y avait quand même beaucoup de choses, et notamment ce qui concerne les fameuses radios transfrontalières qu'on écoutait beaucoup en Russie, à l'époque en URSS. Je pense par exemple, bien sûr, à Voice of America, la Voix de l'Amérique, BBC, Radio Liberté, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de jeu entre les soviétiques et les autorités. Les autorités, notamment le KGB, avaient un budget considérable pour brouiller ces stations de radio. Et le jeu consistait pour les soviétiques des grandes villes à trouver la fréquence qui restait toujours ouverte, hein, pour que le KGB puisse en même temps suivre ces émissions, pour les écouter et ensuite pour en discuter, comme on disait, dans les cuisines. Donc on reprend, si vous voulez, beaucoup de choses aujourd'hui quand je regarde les informations sur ces fuites. On reprend énormément de recettes qui ont fait ou pas leur preuve à l'époque soviétique. Je pense par exemple à des films, à des séries qui sont produits mettant en scène des nouveaux héros destinés à devenir des modèles de la jeunesse russe. C'est des choses qui existaient déjà à l'époque soviétique et qu'on faisait à l'époque soviétique avec plus ou moins de succès, si vous voulez, pour essayer de surclasser, pour dépasser l'influence de Hollywood ou de d'autres cinémas. Si
mais maintenant, la puissance du numérique, bien évidemment, les satellites de communication, enfin, tout cela démultiplie à l'infini, à la fois le niveau de pénétration et aussi le rythme de cette propagande russe. Et au fond, on s'y prend bien tard pour réagir du côté occidental.
Alors, je dirais oui et non. Il a fallu, évidemment, que l'Occident, quand je dis l'Occident, c'est bien sûr une image un peu simplificatrice. Il faut que les pays européens, les États-Unis prennent conscience du fait que la Russie, qui avait tenté de nous vendre pendant des années l'idée qu'elle avait changé, que le stalinisme était désormais une chose du passé, que la dictature, le communisme, etc. Enfin, tout ça, c'était du passé. La guerre froide, c'était du passé. Voilà, cette image qui nous a été vendue d'une nouvelle Russie, il a fallu prendre conscience que c'était de la propagande, de la désinformation. La Russie n'a pas tant changé que cela, pour l'essentiel. Et aujourd'hui, les masques, si vous voulez, sont jetés, quoi. Donc, il a fallu prendre conscience de cela. Et ensuite, bien sûr, il a fallu trouver les moyens et rassembler les moyens pour une sorte de guerre, nouvelle guerre froide 2.0, si vous voulez. Donc, on en est, je pense, qu'au début. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Les gens se demandent toujours, est-ce que ça va encore continuer comme ça pendant longtemps ? Est-ce que cette guerre en Ukraine va continuer pendant longtemps ? Je reste assez pessimiste. Nous n'en sommes qu'au début.
Tatiana Kastoueva-Jean, il ne faut pas non plus négliger le nationalisme russe dans sa légitimité historique, la fierté de cette immense culture, et donc une adhésion à la fois sentimentale, une fierté, un patriotisme réel.
Oui, juste pour compléter ce qui a été dit avant, en fait, il ne suffit pas d'avoir l'information qui est disponible. Il faut aussi deux autres facteurs au moins. Il faut que les gens aient envie d'aller chercher cette information qui est différente de la propagande. Il faut qu'ils y fassent confiance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Russes qui disent c'est la propagande russe contre la contre-propagande occidentale. Tout est à mettre sur le même plan, tout est à relativiser, etc. Il y en a qui ne s'y retrouvent pas. Il y en a qui ne font pas confiance à ce que disent dit l'Occident, parce qu'en effet, il y a aussi cette interprétation, on est dans une guerre informationnelle, et en vérité, l'information, si on veut, on peut y accéder. Il y a les VPN, il y a les chaînes Telegram, il y a les chaînes YouTube où il y a encore...
Oui, mais enfin, pour ça, il faut une dextérité qui, dans la profondeur des campagnes russes et les territoires orientaux, enfin, tout cela est...
Les tendances qu'on peut considérer comme positives sont là. La part de la télévision, par exemple, elle baisse de quasiment 80 à 60% aujourd'hui, mais ça reste la source d'information principale. Les chaînes Telegram, c'est passé de 0 à 20%. C'est surtout les jeunes qui se documentent, etc.
Telegram, et
ensuite, voilà, il y a quand même tout un travail d'éducation médiatique à faire pour savoir interpréter, etc.
Mais le patriotisme russe, ça existe.
Et bah, écoutez, le patriotisme, ça existe dans tous les pays, etc. Mais ensuite, il y a l'usage qu'on fait de ce patriotisme. Et vous avez quand même, on peut dire aujourd'hui, 24 ans de propagande et de travail qui présentent ce patriotisme d'une certaine manière. Pourquoi ce patriotisme doit-il absolument contenir, par exemple, une composante anti-occidentale ? C'est pas toujours été le cas en Russie actuelle. Et donc avec ce qu'on a décrit auparavant, avec plus d'un milliard d'euros injectés dans cette propagande, on explique le contenu qu'on met dans le patriotisme peut être extrêmement différent. Et donc ça, c'est une question d'interprétation, etc. Donc une autre version du patriotisme aujourd'hui, de dire la Russie aurait tout intérêt à rester en bon terme avec l'Occident, etc., n'est plus considérée comme acceptable par les autorités, et ça irradie aussi sur la société, sur la perception de la société, etc. Donc il y a des délations aujourd'hui, il y a des personnes qui ne peuvent plus s'exprimer comme ils souhaitent, etc. Donc il y a des personnes, comme disait Andrei Kozovoy, qui sont aujourd'hui dans les cuisines, qui sont réduits à la condition de la dissidence à l'époque soviétique, et avec des lois répressives qui sont presque plus sévères qu'à l'époque soviétique, et avec des risques qui sont vraiment considérables.
Sergueï Gouriev, Vladimir Poutine a prononcé son discours à la nation le 29 février dernier. Donc il y a eu un passage qui a été évidemment et légitimement repris dans nos médias concernant la guerre à l'Occident, cette folie que nous aurions, nous, de déclencher une guerre nucléaire, etc. Mais c'était finalement un très court passage dans un très long discours qui était véritablement un discours électoral avec des promesses de distribution aux familles, parce que le premier ennemi de la Russie poutinienne, c'est déjà la démographie.
C'est la démographie et la pauvreté et manque de croissance économique, absence de croissance économique pendant des années. En fait, si on regarde les niveaux des revenus, niveau qualité de vie, pouvoir d'achat des ménages russes, c'est toujours en dessous des niveaux de 2013. Donc, les Russes ne sont pas trop contents par rapport à l'économie. Donc, pour les élections, candidat présidentiel Vladimir Poutine doit promettre quelque chose. Mais quand on regarde détail par détail, chiffre par chiffre, c'est pas trop impressionnant et c'est pas nouveau. Il va pas ajouter grand chose. Et après, on a vu déjà que ces promesses électorales par rapport à l'économie, aux dépenses sociaux, c'est pas toujours réalisé. Donc, si on parle des dépenses militaires, c'est fait. Si on parle de dépenses sur l'éducation, santé, normalement, c'est pas fait.
La croissance russe est tout à fait impressionnante, d'autant qu'il y a des batteries de sanctions occidentales, américaines, japonaises, coréennes, évidemment celles de l'Union européenne. Mais en fait, cette croissance, elle est tirée par l'industrie militaire.
C'est tout à fait le cas. Et vraiment, quand on regarde les dépenses militaires, cette année, ça va être 6% du PIB russe. C'était 4% l'année dernière et 3% l'année 2022. Donc, la croissance de 3% du PIB juste ajoutée pour acheter des chars, pour payer les soldats qui sont tués à l'Ukraine, donc ça ajoute pas un pouvoir d'achat des Russes, en fait. Et là, la question est si Vladimir Poutine a suffisamment d'argent de continuer de faire ça. Et là, il y a une chose qui est très importante, que les parties liquides des fonds souverains russes, qui est National Welfare Fund, FNB, ces parties, c'est juste 55 milliards de dollars, qui pas grand chose, ça va suffire pour l'année 2024, mais ça va être dépensé dans l'année 24, début d'année 2025. Et donc, ça va être difficile pour Poutine de continuer de faire ça, de cette croissance, entre guillemets, qui est croissance, de, comme vous avez dit correctement, justement, c'est croissance militaire.
Néanmoins, les exportations de pétrole et de gaz continuent de rapporter des revenus. Non seulement grâce aux achats de la Chine et de l'Inde, mais aussi le détournement des sanctions occidentales. Et on voit même dans l'équipement militaire, je crois, des composantes occidentales qui continuent d'arriver en Russie. Donc à quoi servent ces sanctions? C'est un vieux débat. Mais...
Les sanctions fonctionnent quand les sanctions sont appliquées, hein, quand les sanctions sont renforcées. Et donc on a vu par exemple les sanctions ne fonctionnaient pas trop bien dans l'année 2022 parce que les sanctions pétrolières ont commencé juste en décembre 2022. Et donc les premières moitié de 2023, on a vu la chute des revenus Poutine pétrolières. Et après, il a appris comment détourner, contourner les sanctions. Et il faut maintenant, comme vous avez dit, il faut maintenant renforcer les sanctions, appliquer les sanctions, surveiller le contournement des sanctions technologiques, militaires, financières et surtout pétrolières, parce que c'est ça les argent que Poutine utilise pour payer ses soldats, pour acheter les munitions, artillerie Corée du Nord ou Iran. Et donc c'est ça qui tue les Ukrainiens. Donc les sanctions sauvent les vies quand les sanctions sont en force.
Il y a aussi un débat qui agite beaucoup, ça a été évoqué même au niveau du G7, qui est dirigé en ce moment par l'Italie, d'utiliser, il y a les avoirs russes, les avoirs des banques russes qui sont bloqués au niveau européen en particulier, il y a le rendement du placement de ces avoirs, et un certain nombre de pays, et notamment les pays baltes, disent, mais utilisons ces richesses, enfin ces revenus pour financer les achats d'armes à l'Ukraine. Est-ce que vous, économiste, vous êtes pour l'utilisation de ces fonds?
Je suis très fortement pour. En fait, début des guerres à grande échelle, un groupe d'économistes, y compris les économistes de très grand niveau occidentaux et ukrainiens, et moi-même, on a écrit un rapport sur reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Donc, ce rapport a été publié déjà début avril 2022. Et on a dit là, et je soutiens ça, cette ligne toujours, qu'il faut utiliser les argent gelés russes pour financer la reconstruction. Même G7 a dit correctement qu'il faut trouver le cadre juridique. Parce que si on ne garde pas nos standards, nos normes, nos principes, on perd aussi soft power par rapport à pays tiers. Mm. Parce que maintenant, le discours de Poutine, c'est que les Occidentaux ne respectent pas les règles. Et donc, c'est le grand...
Les doubles standards.
Doubles standards, c'est hypocrisie occidentale. Et donc, il faut respecter l'état de droit. Je crois que la solution juridique est trouvable, elle existe. Il faut travailler là-dessus et qui est très bien déjà... que G7 et président Biden a déjà dit que Vladimir Poutine ne va pas obtenir ses argent avant qu'il paye pour les reconstructions de l'Ukraine. Et là, ça va être... Je crois qu'on va voir qu'on va trouver une solution juridique où l'Ukraine va obtenir un verdict juridique que Vladimir Poutine doit à l'Ukraine quelques centaines de milliards d'euros. Et après, l'Ukraine va demander à Vladimir Poutine de payer. Vladimir Poutine va refuser. Et donc, avec ça, avec ce verdict juridique, judiciaire, l'Ukraine va demander des banques et des institutions financières occidentaux de donner l'argent Poutine à l'Ukraine. Donc, je suis optimiste pour ça, mais je ne suis pas sûr que c'est faisable cette année.
Voilà, tout cela prend du temps et comme vous le dites, il faut respecter les règles de droit. C'est évidemment toute la différence par rapport à la Russie de Poutine. André Kozova, pour rester sur ce système économique russe, on a longtemps parlé, mais on a abandonné ce vocabulaire. On a longtemps parlé de la verticale du pouvoir en Russie, et en fait, on se rend compte qu'avec le système des oligarchies qui se sont développées par paliers, en quelque sorte, depuis la chute de l'Union soviétique, Vladimir Poutine a réussi à mettre au pas, et ce depuis l'internement fameux du plus riche d'entre eux dans les années 2003, si ma mémoire est bonne, voilà, tout ce système oligarchique est désormais contrôlé par Vladimir Poutine lui-même et pratiquement ses amis d'enfance.
Oui, tout à fait. Alors, on a parlé effectivement d'oligarques. On les a qualifiés d'oligarques, ces hommes d'affaires souvent multimilliardaires. C'est dans les années 90 que ce mot est apparu, surtout au moment l'élection présidentielle qui s'est déroulée en 95-96, la réélection de Boris Yeltsin en juillet 96. Donc, il faut se replacer dans le contexte de l'époque très rapidement. À l'époque, Boris Yeltsin, le gouvernement russe, manquait d'argent. Il n'avait plus d'argent.
Oui, mais pardon, je vous interromps. Qu'en est-il aujourd'hui, où l'on voit encore les fortes de l'économie russe, le pétrole, le gaz, etc., qui sont aux mains des mêmes depuis des années, et ce sont les copains de Poutine, avec la corruption pour ciment, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Donc, il faut bien se rendre compte que une partie, sinon la grande partie de la richesse de Vladimir Poutine provient de l'argent des oligarques, ce qu'on appelle les oligarques un peu à tort parce qu'ils n'ont plus l'influence qu'ils avaient à l'époque de Boris Yeltsin dans les années 90. Il y a eu un deal, si vous voulez, qui a été passé au début des années 2000, au moment du début du premier mandat de Vladimir Poutine. En gros, Poutine leur a dit « Vous avez le droit de garder votre argent, vous avez le droit de continuer à faire des affaires. En revanche, il y a deux choses que je vous demande, c'est tout d'abord, ne vous mêlez plus de politique. » Et vous l'avez dit, il y en a au moins un qui n'a pas suivi ce conseil, c'est Khodorkovsky. Il l'a payé au prix fort de 10 ans de prison entre 2003 et 2013. Et puis la deuxième condition, c'est que vous me versez une grande partie de vos revenus. Je crois qu'il y a au moins 50%, certains parlent de 50% des revenus, des bénéfices faits par ces hommes d'affaires qui sont versés sur des comptes occultes. Évidemment, ce n'est pas dans la poche directement de Vladimir Poutine, par le biais de ses amis, parce qu'il faut encore une fois le souligner, vous l'avez dit, Vladimir Poutine, c'est un homme, on a une dictature qu'on appelle personnaliste aujourd'hui en Russie, mais il est entouré par tout un cercle d'amis, de gens proches, qui viennent à la fois de ses années à l'époque du KGB, où il était formé au KGB, je pense par exemple à Sergueï Chemezov, n'est-ce pas, à Gennady Timchenko aussi, qui a été au KGB. Il y a des gens qui ont fait du judo avec lui, frères Rothenberg, n'est-ce pas ? Il y a des gens de l'époque de Saint-Pétersbourg, où il a été adjoint à la mairie de Saint-Pétersbourg, comme Yuri Kovalchuk, très important avec la coopérative Ozero, le lac, n'est-ce pas ? Voilà. Et puis aujourd'hui, le chef de Gazprom, Viktor Zubkov, dont on oublie souvent de parler. Donc ces gens-là, ce sont des gens qu'on peut appeler sans trop de difficulté ses amis, des gens en qui il a une grande confiance. Il y a aussi des gens tout à fait improbables, comme ce Sergueï Roldougine, qui est un violoncelliste, qui est un ami d'enfance de Poutine et qui aujourd'hui est un prête-nom depuis l'affaire des Panama Papers, on a appris que c'était son prête-nom pour ses opérations occultes. Et puis il y a ses collègues qu'on confond souvent avec ses amis, des gens avec qui il a des relations cordiales de travail, mais qui ne sont pas ses amis, des gens comme Igor Sechin, à la tête de Rosneft, des gens comme Patrouchev, n'est-ce pas, Nikolai Patrouchev, l'ancien chef du FSB, aujourd'hui secrétaire du Conseil de sécurité, et puis, bien sûr, le terrible Medvedev, je dis terrible parce que Grozny, comme on dit en russe, puisqu'on le connaît surtout par ses publications apocalyptiques sur Telegram.
Céline Maranger, dans ce système où l'on comprend en fait la forme de la bulle et donc l'isolement dans lequel s'est installé Vladimir Poutine, on entend un discours de victoire. Un discours de victoire, même si, encore une fois, il avait dit « on va conquérir l'Ukraine nazie en 3 jours ». On voit au bout de 2 ans que ce n'est évidemment pas le cas. Comment se fait-il que, face aux pertes humaines qui sont considérables, hein, qu'on évalue à peu près…
300 000.
À 300 000.
Pour donc, les pertes, pour les tués et les blessés.
Alors… On se souvient au moment des guerres de Tchétchénie, les maires, sans même remonter à l'Afghanistan, mais les maires qui protestaient. Il y a eu quelques manifestations, mais là, encore une fois, le niveau de contrôle est tel qu'il n'y a pas ces protestations.
Je pense que pour expliquer le consentement à la guerre, ou en tout cas l'absence de protestations publiques, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a bien sûr la répression, on en a déjà parlé. Il y a la propagande, très importante. Et je pense que un des traits saillants aussi, c'est la volonté des autorités russes de reconstituer des organisations de façade qui vont pouvoir porter un discours dans la société au plus proche des gens. Donc il y a des et ça bien sûr ça rappelle la période soviétique, ça rappelle aussi la technique du front uni en Chine. Mais il y a d'autres, donc pour ce qui est de la propagande, moi, l'impression que j'ai, c'est quand même que ça fonctionne assez bien. Les sondages d'opinion montrent qu'il y a une consolidation autour des élites, des élites et de la population autour de la personne de Vladimir Poutine. Il montre aussi, même s'il faut être prudent avec ces sondages, que 75% des personnes interrogées, c'est un chiffre de décembre, soutiennent l'opération spéciale.
Mais avec des difficultés de recrutement. Hein. On
Tout
entendait
à fait.
Ce matin, sur France Culture, ce reportage sur des mercenaires venus du Népal.
Oui.
Il y a des mercenaires étrangers qui sont enrôlés, moyennant finances, bien évidemment.
Ce qui me semble important à garder à l'esprit, c'est qu'en fait les autorités russes ont réussi à convaincre une large part de la population russe que la Russie ne serait pas en guerre contre l'Ukraine, mais contre l'Occident, comme à l'époque de la guerre froide, et que la Russie, en fait, serait le pays agressé, et non le pays agresseur. Et donc, en fait, beaucoup de gens adhèrent à l'idée qu'il faut faire corps avec les forces armées et défendre le pays. Et ça, je pense que c'est le fait qu'ils arrivent à faire passer une guerre d'agression qui a causé des pertes colossales et des destructions considérables comme une guerre en fait préventive de légitime défense, c'est gravissime en fait.
Mais
il y a une autre,
je vais vous faire de la pub et vraiment vous le méritez ainsi que Juliette Cadio, parce que dans Le Grand Continent vous avez commencé une série de d'enquêtes sur la transformation du récit historique façon Poutine, qui reprend le récit soviétique anti-impérialiste, et on voit ce que ça donne dans certains pays africains. Et donc, voilà, il y a ce révisionnisme qui est à l'œuvre aussi dans les manuels d'éducation pour les enfants russes. Comment se transforme ce récit russe en falsifiant, en fait, l'histoire même de la Russie impériale? Je sais que le sujet est vaste,
mais le
temps nous est compté.
Mais je voudrais juste, peut-être avant de répondre à cette question, dire un dernier mot l'argent, en fait. Une des raisons qui explique le consentement à la guerre, c'est qu'en fait, la guerre crée des opportunités, à la fois pour les individus. Il faut rappeler que la solde, elle est 10 fois supérieure au salaire moyen dans les contrées reculées et pauvres de Russie.
Et quand
et que
le
la
fils
prime
est tué,
en cas de mort, c'est 50 000 dollars. milliards, ce qui représente une véritable fortune en Russie. Et donc, il y a ça. Et par ailleurs, il y a eu des investissements très importants dans l'industrie de défense, pour produire des armes et des munitions, mais ce qui a aussi permis, en fait, de relancer l'économie de régions reculées. Et de passer des commandes auprès d'entreprises d'État qui périclitaient depuis 25 ans. Et tout ça, en fait, plus, bien sûr, ce qui a été dit tout à l'heure, le fait que l'État alloue des aides sociales de plus en plus importantes pour soutenir la population. Donc, si vous voulez, vous avez une redistribution des richesses du fait de cette guerre. Qui entraîne une baisse du taux de pauvreté, légère encore, mais quand même. Le nombre de personnes pauvres est en recul. Les écarts de richesse entre les régions pauvres et les régions les plus riches diminuent également. Et ça, ça doit causer une certaine inquiétude, je pense, de notre côté, parce qu'en fait, la croissance économique et le nouveau contrat social reposent sur la poursuite de la guerre. Et si Vladimir Poutine aujourd'hui décidait d'interrompre la guerre, il y aurait des chocs en retour. Et donc ça peut être
des chocs
une
sociaux.
Incitation supplémentaire, en plus de toute son idéologie, à poursuivre la guerre en Ukraine, ou à l'étendre.
Sergueï Gouriev.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Céline par rapport au soutien massif des Russes, par rapport à la propagande russe. Il y a des Russes qui croient les propagandes, les narratifs, les récits que Céline a évoqués, que les Russes sont agressés par les Occidentaux et tout ça. Mais combien de Russes, acceptent cette propagande? On ne sait pas. Et les sondages n'y sont pas trop convaincants parce que si quelqu'un m'appelle demandant si oui. je soutiens la guerre ou non, si je dis que je suis contre la guerre, comme Céline a dit, c'est 8 ans en prison. Mm. Et donc là, on voit déjà qu'il y a dizaines de milliers de gens qui manifestent depuis 2 ans, manifestent contre la guerre. Depuis 2 ans, 20 000 personnes ont été détenues en Russie pour manifestation contre la guerre. Quand on regarde les questions indirectes dans les sondages, par exemple, si vous soutenez dépenses militaires ou sociaux, en fait, beaucoup plus de gens soutiennent l'augmentation des dépenses sociales et pas des dépenses pour la guerre. Mm. Donc là, je crois qu'il ne faut pas accepter les propagandes de Poutine que la grande majorité des Russes soutiennent la guerre. Si la grande majorité des Russes soutiennent la guerre, pourquoi on a besoin de répression? Pourquoi on ne veut pas d'avoir un candidat contre la guerre dans les bulletins? Donc pour moi, c'est plutôt un signe de faiblesse. Comme Navalny a dit, je suis tué, ça montre que Poutine a de la peur. Poutine est plus faible. Et donc, je crois qu'on ne peut pas parler des soutiens massifs des populations russes pour la guerre. Et comme vous avez déjà évoqué, Poutine a une difficulté de recruter des soldats. Avec tous les argents, vous avez indiqué cette protestation des femmes des soldats et qui demandent des rotations des soldats mobilisés en septembre 2022. Les soldats sont toujours là, à l'Ukraine. Mais Poutine ne peut pas faire la nouvelle mobilisation parce que ce n'est pas populaire, ce n'est pas soutenu. Personne ne veut aller là, sauf les personnes qui demandent 2 fois le salaire moyen. Et là, Poutine n'a pas trop d'argent, donc il ne peut pas en fait faire la rotation des soldats qui sont déjà en Ukraine parce que c'est soit cher, soit pas populaire.
Et il y a aussi une sorte de distribution ethnique, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de recrutement dans les régions les plus pauvres, qui sont les plus à l'est, enfin les régions du Caucase en particulier, Sergueï.
C'est exactement comme Céline a dit, parce que ces régions sont plus pauvres, donc c'est moins cher de recruter les soldats, parce que là, le salaire moyen est très, très, très faible. Et même, il y a des régions ethniques qui sont plus riches, comme Bashkortostan et Tatarstan, et là, le nombre de soldats est plus faible.
Céline Maranger, je reviens à cette série de papiers que publie la revue Le Grand Continent et où vous resituez le récit de l'histoire à la façon Poutine dans la tradition soviétique et même dans la tradition tsariste, c'est-à-dire le récit d'un impérialisme russe historique en quelque sorte.
Tout à fait. En fait, on est parti du constat que les pays partenaires de l'Est de l'Europe ont une mémoire très vive à la fois de l'histoire de l'impérialisme russe, de l'histoire de la domination soviétique et des répressions soviétiques.
Donc là, les trois pays baltes,
bien sûr. Les trois pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, la Finlande, tous les pays qui ont connu en fait la domination soviétique et avant la domination impériale russe gardent une mémoire très très douloureuse en fait de ces années-là et des répressions qu'ils ont eu à subir, alors que dans les pays occidentaux et en France notamment, c'est quelque chose qui est assez peu connu et pris en compte. Et donc notre intention était d'aider le lecteur français et les lecteurs à mieux comprendre l'histoire et les perceptions présentes qui découlent de cette histoire.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment la Russie, et on voit que c'est très efficace dans les pays subsahariens où la propagande anti-française se déchaîne, la Russie de Poutine dit ben, l'anti-impérialisme, l'anticolonialisme, c'est nous.
Oui, alors en Afrique, effectivement, ils instrumentalisent en fait le souvenir du soutien que l'Union soviétique a apporté à ces pays au moment des indépendances et de son engagement anticolonial. Je veux dire, l'engagement anticolonial des bolcheviks russes, il date de la fin des années 10.
Et la formation de nombreux chefs d'État africains à l'université Lumumba à Moscou.
Mais en fait, et donc, ils accusent les pays occidentaux de néocolonialisme pour attiser les sentiments anti-français et anti-occidentaux et pour faire oublier, en fait, leurs intentions belliqueuses et coloniales en Ukraine. Mais il y a vraiment, et je pense que ça, c'est quelque chose de très important, ils sont très habiles à pratiquer l'inversion des responsabilités. Ils le font de manière systématique et je crois qu'une des meilleures manières de répondre à ce discours qui est fallacieux et qui porte préjudice, c'est de rappeler les faits. À l'époque soviétique...
Mais c'est ce qu'on s'efforce de faire.
Voilà, les investissements et les dons aux pays africains étaient tout à fait colossaux. L'objectif, c'était d'exporter un modèle politique, le communisme, mais aussi de favoriser le développement de ces pays. Aujourd'hui, rien n'est plus gratuit dans ce que la Russie propose à l'Afrique. Je veux dire, l'aide publique au développement russe, elle est dérisoire, et les investissements russes en Afrique,
c'est la méthode Prigogine, c'est-à-dire qu'on se sert en matière première. Tatiana Kastoueva-Jean, ce que l'on comprend de notre discussion ce matin, c'est que la guerre est devenue consubstantielle au système de pouvoir de Vladimir Poutine.
C'est tout à fait vrai. Et en fait, si on revient au moment de l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir, on se souvient qu'il est arrivé au moment de la guerre en Tchétchénie. Et tous ces pics de popularité depuis cette époque-là...
On avait même dit qu'il avait...
Au moment de guerre.
Enfin, qu'il avait attribué des attentats et peut-être provoqué le métro de Moscou en particulier.
Cette théorie qui était pendant un long moment considérée comme complotiste, que cela aurait été le FSB qui aurait organisé les explosions des immeubles à ce moment-là pour se donner le prétexte d'introduire les troupes en Tchétchénie. Tout ce qu'on disait être complotiste, aujourd'hui, on regarde ces choses-là tout à fait différemment. En effet, il y a cette inversion à chaque fois de discours, le coupable c'est toujours l'autre, et ça c'est très présent chez Vladimir Poutine. Et donc je reviens à mon idée que les pics de popularité de Poutine, c'est toujours quand il y a des guerres, les guerres en Tchétchénie, la guerre en Géorgie, la Crimée, etc. Et on observe que juste avant le début de chacune de ces guerres, il y a une chute légère de popularité qui est remontée de cette manière, grâce à la guerre. C'est classique, traditionnel, c'est propre aux autres pays. Il y a ralliement autour du président, autour du flag, comme on dit. Et donc, cela permet ensuite au régime de faire passer toutes sortes de mesures, y compris d'ailleurs des mesures impopulaires, etc. Et aujourd'hui, en effet, terminer la guerre pour Vladimir Poutine, cela signifierait de créer des mécontentements pour le noyau dur, pour ceux qui trouvent qu'il ne faut pas arrêter l'opération militaire spéciale, entre guillemets, jusqu'à ce que les objectifs de guerre soient atteints, c'est-à-dire jusqu'à la soumission totale de l'Ukraine. Et vous avez aussi, en effet, la fin de la guerre va laisser des mécontents qui vont plus avoir le même niveau de revenus auquel ils ont accédé aujourd'hui. Et surtout, Vladimir Poutine, il faudra qu'il s'occupe à nouveau des problèmes intérieurs, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Il en parle beaucoup dans son dernier discours. Voilà, il y avait tout un... C'était inondé de chiffres, etc. Mais au fond, on voit bien aujourd'hui que c'est pas le sujet principal des préoccupations. Et c'est d'ailleurs, ça va à l'encontre avec ce que les Russes souhaitent, parce qu'ils sont surtout préoccupés par leur situation économique et sociale. Ils souhaiteraient que le président consacre plus de temps et d'attention aux problèmes intérieurs.
Et en fait, son modèle, c'est le modèle chinois. Donc, d'où la célébration non seulement de la grande amitié avec le président Xi Jinping, mais cette idée, en fait, que la Russie tourne le dos à cette Europe asservie aux États-Unis, enfin on peut reprendre tous les termes de la propagande russe, et en fait devient une puissance orientale et asiatique.
Et en fait, les chiffres commencent à montrer, les chiffres des échanges économiques commencent à montrer qu'il y a quand même un tournant vers l'Est et vers la Chine. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial. C'est même, sa présence est très visible à Moscou en matière de voitures qui roulent dans les villes russes, etc. Et ce tournant-là, en fait, quand on regarde l'Extrême-Orient, c'est très faiblement peuplé. Du point de vue démographique, il n'y a pas tellement d'investissement pour la construction des sites de production sur place. C'est une immense zone assez vide de transit. Tout reste consacré dans la partie européenne. Mais la dépendance à l'égard de la Chine, en effet, elle est extrêmement élevée. Mais aujourd'hui, dans l'espace public russe, on ne peut pas évoquer ce genre de choses. La Chine, dans l'opinion publique, la voit plutôt de bon œil comme un pays partenaire, un pays ami, un pays favorable. Et j'ai vraiment l'impression que même les élites russes s'interdisent de penser le pas d'après. Qu'est-ce que ça va donner? Quelles conséquences de cette nouvelle dépendance très forte de la Chine?
Sergueï Gouriev, le dernier mot vous appartient. Ce modèle russe, vous appartenez à cette génération, à cette élite russe qui a cru dans les années 2010 en particulier, plus ou moins. Mais bon, qu'en gros, il y avait un modèle russe qui pouvait tourner autrement. Aujourd'hui, en quelques mots, cet espoir-là.
Ouais, l'espoir est toujours là et comme Alexei Navalny l'a dit, il faut rester optimiste, il faut garder cet espoir. Et pendant l'époque de Medvedev première, quand Medvedev a été président, l'Union européenne et la Russie, on a discuté partenariat pour modernisation de la Russie. Et donc la Russie est toujours, même aujourd'hui, c'est un pays très éduqué, très sophistiqué et il va finalement devenir partenaire européen. Mais ça demande un changement de régime politique, départ de Vladimir Poutine et transition à démocratie. Avant cela, je crois que c'est juste un espoir.
Et la guerre continue. Je vous remercie tous les quatre. Sergueï, je rappelle que vous avez publié en mai dernier chez Payot le nouveau visage de la tyrannie au XXIe siècle, les Spin Dictators, un ouvrage coécrit avec Daniel Tressman, tout à fait intéressant justement sur les méthodes de manipulation des opinions publiques. Céline Maranger, j'ai déjà parlé de cette série de papiers dans Le Grand Continent, Violence impériale, l'actualité russe du passé soviétique. André Kozovoy, vous avez notamment publié La chute de l'Union soviétique chez Perrin l'an dernier et les services secrets russes des tsars à Poutine chez Talendier, l'an dernier aussi. Et Tatiana, même éditeur, Talendier, La Russie de Poutine en 100 questions. À la réalisation ce matin, comme tous les samedis, Luc-Jean Reynaud, à la technique Florent Dujon, Mercia Nezic et la documentation de Radio France m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous signale que vous pouvez évidemment la recommander ou même la réécouter en podcast sur la plateforme France Culture. Et nous sommes samedi, voici donc Nora Hammadi sous les radars. Bon week-end et à samedi prochain.